BPM, élections législatives 2024.
Bonjour à tous, bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. C'est l'heure des émissions spéciales pour le second tour des élections législatives qui aura lieu donc ce dimanche 7 juillet. À cette occasion, BPM reçoit les deux candidats sur la 5e circonscription de l'Eure et nous commençons aujourd'hui par recevoir Frédéric Duché, candidat pour Horizon sur donc cette 5e circonscription de l'Eure. Frédéric Duché, bonjour.
Bonjour.
Alors pour refaire la même présentation que la semaine dernière lors du premier tour, vous avez 56 ans, vous êtes maire des Andelys, président de Seine-Normandie Agglomération et vice-président du conseil départemental de l'Eure. Vous êtes donc candidat pour ces élections législatives 2024 et votre suppléant se nomme François Ouzillot, maire de Vernon. Tout au long de cette émission, nous allons passer en revue votre projet pour la circonscription, vos propositions et priorités pour les prochaines années. Mais tout d'abord, on va revenir sur les résultats du premier tour dans cette 5e circonscription. Timothée Houssin, député sortant du Rassemblement National, est ressorti en tête avec un peu plus de 45% des voix, suivi par vous, Frédéric Duché, avec 24,39%. Et Pierre-Yves Jourdain était initialement qualifié pour ce second tour, mais il a depuis décidé de se désister pour laisser place à un duel. Nous avions eu votre réaction au résultat dimanche à chaud, avec un peu plus de recul maintenant. Comment est-ce que vous avez réagi et même comment est-ce que vous avez rebondi cette semaine après l'annonce des résultats ?
Bah écoutez, cette vague était importante, elle était attendue, on la sentait venir. Personnellement, ça fait plusieurs années que je dis que je sens le Rassemblement National monter sur le territoire de manière très forte. Et donc, j'ai été surpris de l'ampleur du score, mais pas complètement surpris non plus du résultat. Je trouve que sur mon propre résultat, ça tient plutôt pas trop mal, parce que 25%, quand je fais du comparatif par rapport aux autres collègues en France qui sont plutôt autour de 19%, on a un petit peu plus de voix. Voilà, et puis le désistement de Pierre-Yves Jourdain, c'était son choix. Je l'ai remercié de ce désistement républicain pour me laisser en duel face à Timothée Houssin. Voilà, donc c'est une campagne très très courte, que à titre personnel je ne trouve ni respectueuse des électeurs ni des candidats. Il aurait été plus simple d'avoir plusieurs semaines pour pouvoir convaincre les électeurs, mais c'est comme ça, c'est pas nous qui en décidons, et donc on continue à travailler toute la semaine pour aller rechercher des électeurs sur ce second tour.
Ce que vous disiez aussi chez nos confrères de l'Impartial, c'est que le Rassemblement National fait un score élevé, mais peut-être pas aussi élevé que ce que vous auriez pu penser après les résultats des élections européennes.
Alors, il fait un score élevé. Timothée Houssin ne fait pas le meilleur score, notamment dans le département, en termes de pourcentage. Donc, il y a quand même un petit peu de perte en ligne. Voilà. Après, il faut. Je connais mon arithmétique électorale. C'est un score qui est important sur un premier tour.
Comme on l'a dit plus tôt, nous aurions dû avoir une triangulaire pour ce second tour. Finalement, donc le candidat du Nouveau Front Populaire, Pierre-Yves Jourdain, s'est désisté. Lui, il a appelé directement ses électeurs à voter contre le Rassemblement National. Et donc, pour vous, ça peut changer la donne, selon vous ?
Écoutez, ça dépend des électeurs qui ont voté au premier tour au Front Populaire. Soit ils souhaitent rester chez eux ou voter blanc, et auquel cas le Rassemblement National sera élu dimanche. Ou alors ils décident de voter pour une alternative qui peut être celle d'une nouvelle majorité parlementaire qui permettrait de travailler différemment dans des groupes politiques différents, mais en tout cas pour l'intérêt de la France. Et évidemment, moi, je renvoie là-dessus, je reste toujours très clair. Je ne souhaite pas travailler avec la France insoumise qui aujourd'hui ne correspond pas à ma vision de la société, à une vision républicaine de la société.
C'est quand même potentiellement 21% d'électeurs qui pourraient se rabattre sur vous, finalement.
Bien sûr, c'est toujours le jeu, mais vous savez, les Français n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils ont à voter. Donc moi, je laisse le soin et le choix à chacun des électeurs de se déterminer en conscience par rapport à ce scrutin et de savoir ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent vraiment influer ? Est-ce qu'ils veulent donner une majorité absolue au Rassemblement National dimanche prochain ? Avec les conséquences que ça aura sur le pays, hein, parce qu'il y aura de réelles difficultés derrière, ou de faire changer les choses et d'avoir un député de proximité présent, qui connaît vraiment bien son territoire et qui a déjà montré depuis près de 30 ans ses capacités à accompagner les dossiers tant des individus que des collectivités locales.
Il y a aussi votre ancienne famille politique, les Républicains. David Daverton, le candidat, n'a pas donné de consigne de vote. Il y aurait potentiellement aussi une réserve de vote par ici.
Bien sûr, les électeurs des LR peuvent se reporter, les électeurs de mon ancienne famille politique peuvent se reporter sur moi. Je suis assez surpris quand même des positionnements des LR, parce que quand on voit que la gauche vous soutient plus que votre ancienne famille politique, ça laisse quand même un tout petit peu de réflexion sur le degré de volonté de vouloir faire avancer le pays. Moi, je connais peu M. Daverton. J'ai lu ses propos. Je pense qu'à travers les lignes, on sait vers où ira son vote dimanche prochain. En cela, c'est bien pour ça que je les ai quittés, parce que moi, je ne suis pas un extrémiste et je n'irai jamais vers les extrêmes.
Et c'est là qu'on vous retrouve aussi dans les propos de Pierre-Yves Jourdain, qui lui parlait de cette fois mettre en place ce front républicain, du coup pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir.
Alors j'aime pas beaucoup le terme front républicain, parce que ça veut pas dire grand-chose, le front républicain. C'est de se dire, est-ce qu'on a envie d'avoir des gens qui s'inscrivent dans les valeurs de la République ? C'est plutôt ça. Quand on veut instaurer la préférence nationale, quand on renvoie sur de la stigmatisation, la multiplication et la libération de la parole raciste aujourd'hui, j'étais sur le marché de Gisors la semaine dernière, j'ai quand même entendu une dame me hurler dessus en disant « les bicots dehors », ce que je n'avais jamais vu jusqu'à présent. Et donc je vois bien qu'il y a une libération de cette parole-là. Et moi, c'est ça qui m'inquiète profondément dans la société dans laquelle j'aspire à vivre et la société que nous allons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants plus tard.
Ces élections, évidemment, sont locales, hein, mais aussi elles se jouent au niveau national aujourd'hui, d'autant plus cette année. La majorité présidentielle, finalement, est ressortie en troisième position derrière le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Est-ce que c'est si surprenant, finalement ?
Ah, c'est absolument pas surprenant. Alors, moi, je ne fais pas partie de la majorité présidentielle, hein, mes vertus à le dire, je suis Horizon, Carté Horizon, et Horizon n'est pas aujourd'hui dans la majorité présidentielle. Elle l'a été. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à de nombreuses reprises sur les erreurs qui étaient commises par le gouvernement et par le président de la République. Je suis assez à l'aise là-dessus. Je suis quelqu'un de très indépendant et qui dit toujours ce qu'il pense. Donc ça ne va pas changer. Ça n'a pas changé avant, ça ne changera pas après, mais il y a plein de choses qui m'ont profondément choqué. Quand on met en place la flat tax, c'est-à-dire le fait que des gens qui se payent qu'avec des dividendes, c'est-à-dire les plus grosses fortunes, n'aient pas la même imposition que celui qui se verse un salaire ou qui est salarié, me choque profondément. Voilà, sur la retraite, même si je pense qu'il faut reculer l'âge de la retraite, parce que si on veut conserver notre système par répartition, je ne vois pas comment on peut faire. Je pense qu'on aurait pu améliorer considérablement ce texte en mettant en place la répartition, la retraite à points, en prenant en considération justement les difficultés que peuvent avoir certains salariés dans l'exercice des fonctions difficiles, et donc qu'ils puissent capitaliser des points qui leur permettent de partir plus tôt. Enfin, vous voyez, je pense qu'il faut aussi rebattre complètement les cartes de ce qui a été fait. Je pense qu'il faut renverser la table, pour tout vous dire. Il faut rebâtir une nouvelle gouvernance et une nouvelle majorité parlementaire, et enfin se préoccuper du sort des Français de nos territoires. Je le dis souvent, les élites parisiennes décident toujours pour nous, nous regardent avec beaucoup de condescendance, nous regardent un peu de haut en disant qu'est-ce qu'ils veulent encore les bouseux. C'est insupportable. Voilà, moi je veux être la voix, je l'ai dit, je veux être la voix et la force de la circonscription, des administrés de la circonscription, pour faire entendre leur voix à Paris.
Et c'est aussi à travers cette volonté que, si vous êtes élu, vous souhaiteriez mettre en place donc un conseil de circonscription. Avec qui, comment est-ce que ça serait...
Alors, ce conseil de circonscription, ça serait d'avoir quelque chose qui soit assez représentatif, donc pas avec des élus, bien sûr, parce qu'il représente une part du corps social, mais aussi des habitants, des professionnels, et pour fonctionner de manière différente. Déjà, pour faire de la pédagogie des textes, et surtout pour écouter et nourrir la réflexion du député du secteur, pour que à l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a une loi à voter, elle soit complètement éclairée non pas par des technocrates parisiens qui vous expliquent comment c'est fait, mais aussi par monsieur et madame tout le monde. Je vous donne un exemple très précis sur le sujet. La prime pouvoir d'achat, par exemple, prime Macron, dont il est proposé qu'elle passe de 3 000 à 10 000 euros, désocialisée et défiscalisée, sans charge sociale et sans charge fiscale, moi, je trouvais l'idée intéressante. Puis, je me la suis fait expliquer par des chefs d'entreprise et qui m'ont expliqué que s'ils la mettaient en place, il fallait donner la même somme à l'ensemble des salariés. Et évidemment, en tant que manager, on comprend bien que chacun ne peut pas avoir la même prime au même niveau. Entre celui qui s'investit pleinement et celui qui fait juste son travail, vous ne pouvez pas donner la même somme, sinon vous créez des difficultés. C'est pour ça que ça pose des difficultés d'application aujourd'hui et que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Typiquement, ce sont des genres de choses qu'il faut réécouter les gens pour pouvoir comprendre pourquoi les dispositifs ne fonctionnent pas, les expérimenter et les remettre sur la table pour pouvoir les faire fonctionner correctement, au bénéfice d'ailleurs de ceux qui en ont le plus besoin.
Autre sujet sur ce premier tour, pour une fois j'ai envie de dire, on a connu partout en France et notamment sur la circonscription un assez fort taux de participation, 67% sur la circonscription. J'imagine que vous attendez la même chose, vous espérez la même chose dimanche, voire mieux.
J'espère même mieux parce que je pense que plus il y aura de participation, plus ça veut dire que les gens refuseront à un moment un système qui est déjà affiché. Les élections parlementaires ne sont pas encore terminées, que déjà c'est à Paris la distribution des postes dans les ministères. Bon, il ne faut jamais insulter l'avenir, je pense qu'il faut respecter l'électeur et son choix. Donc il faut d'abord que les gens votent, après moi je prendrai acte du choix des électeurs sur un taux de participation important, et si les électeurs souhaitent que ce soit le Rassemblement National, ce sera le Rassemblement National. Ils seront légitimes parce qu'ils seront élus par les voix du peuple. Voilà, ce n'est pas mon choix, et clairement je mettrai toute mon énergie jusqu'à vendredi soir 23h59 pour tenter d'inverser le cours du scrutin, mais après il faut toujours respecter la démocratie.
On s'approche tranquillement de la fin de l'émission, on va en profiter pour parler un petit peu du programme et notamment du sujet du pouvoir d'achat. Vous en avez déjà un peu parlé, mais il y a toujours cette volonté d'aider les habitants de la circonscription notamment pour améliorer ce pouvoir d'achat.
Bien sûr, et l'amélioration du pouvoir d'achat, ça passe par plusieurs axes. Ceux qui vendent des baisses de TVA, etc., n'expliquent jamais comment ils compenseront cette baisse de TVA dans les recettes de l'État. C'est-à-dire que la TVA, dans le pays, ça représente à peu près 170 milliards d'euros sur un budget de 350 milliards d'euros à l'année, le budget de l'État. Quand vous amputez une part de vos recettes, soit vous créez une recette supplémentaire, soit vous diminuez les dépenses. Moi, je n'ai entendu rien sur les nouvelles recettes et je n'ai entendu rien sur la suppression des dépenses. Donc à un moment, ça fait partie des choses de ce que j'appelle la démagogie et on rase gratis. Après, je pense qu'effectivement, il y a un problème de salaire dans ce pays et qu'il faut réouvrir des négociations avec les branches salariales pour pouvoir retrouver du pouvoir d'achat. Il faut diminuer les taxes qui pèsent lourdement sur les salaires pour les chefs d'entreprise, les charges patronales qui sont très élevées. Je le vois, moi, à travers le travail de mon épouse qui est commerçante, où ça coûte quand même énormément d'argent. Et si on veut embaucher, c'est pas possible. Donc, il faut trouver les moyens de pouvoir créer de l'emploi. Mais je crois aussi qu'il faut surtout dire la vérité aux Français. On peut pas avoir une dette galopante, même si une partie de la dette aujourd'hui est liée à ce qui a été fait dans le cadre du Covid. Continuer à dire qu'on va diminuer des recettes et qu'on va continuer à augmenter la dépense publique, parce que c'est très mauvais pour notre économie. Et c'est une des questions fondamentales que je me pose sur l'application du programme RN, c'est que je pense qu'ils n'ont ni les moyens de trouver de la recette supplémentaire, ou alors ce sera pour aller taxer un peu plus le capital, ou il faudra faire des suppressions dans les services publics, et ils n'ont pas expliqué dans quel service public fallait faire les suppressions. Donc voilà, donc moi sur le pouvoir d'achat, je suis volontariste, je reçois des gens dans mon bureau toutes les semaines, et je vois bien que la difficulté avec l'inflation, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut trouver les moyens qu'ils puissent gagner plus d'argent, il faut que l'activité paye plus que l'inactivité. Ça reste vraiment un credo, et c'est vraiment un credo de droite. Il faut que les retraites soient indexées sur l'inflation, mais pas que ce soit des coûts ponctuels, que ce soit habituel, parce que ça, c'est important également. Et puis, il faut mettre tout en œuvre pour pouvoir faire en sorte que quand j'entends blocage des prix, le blocage des prix, il existe aujourd'hui dans le Code du commerce, mais vous ne pouvez bloquer que les prix pendant 6 mois. Voilà, donc il faut trouver le moyen d'arriver à ce que les gens gagnent plus et à juguler l'inflation. Mais juguler l'inflation, ce n'est pas qu'un concept local, c'est un concept macroéconomique, et donc il faut travailler sur l'ensemble de l'économie pour pouvoir réussir à baisser l'inflation.
Frédéric Duché, merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie, merci BPM.
Cette émission sera rediffusée à midi et 18h, et vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site bpmlaradio.com, rubrique podcast, puis élection législative 2024. À 8h30, nous recevrons Timothée Houssin, candidat du Rassemblement National et député sortant, qui nous présentera son programme pour la 5e circonscription de l'Eure. Ne bougez pas, on se retrouve très vite sur BPM.
BPM, élection législative 2024.